RCF. L'échappée belle en musique. RCF.
Nous célébrons cette année le 200e anniversaire de la naissance de Charles Gounod. Alors, quelles sont ses œuvres et quelle est son histoire? Réponse en direct et juste à 15h.
RCF, l'échappée belle en musique, présenté par Melchior Gormand.
Jean-François Duchamp, bonjour.
Bonjour Melchior.
Vous avez passé un bon week-end?
Oh oui, très bien.
Vous êtes en pleine forme alors?
Oui, ça va parfait.
Et on va parler de Charles Gounod.
Oui, bien sûr, parce que c'est un compositeur dont on célèbre, vous l'avez dit, le 200e anniversaire de la naissance. Il est né le 18 avril 1818. Nous sommes le 30 avril, oui, on n'est pas très loin.
Ah oui.
Et puis, il a tout juste donc 200 ans. À Paris, il est mort le 18 octobre 1893 à Saint-Cloud. Son père était prix de Rome, mais en musique, en peinture. Et sa mère, pianiste, élève de Reicha et de Halévy, et le sueur au conservatoire de Paris. En 1839, il a 21 ans et il remporte le prix de Rome. Mais en musique, lui, évidemment. Bien sûr, avec cette cantate Fernand. Les portes de la Villa Médicis lui sont ouvertes et il est accueilli par Ingres, très grand peintre, qui venait d'être nommé directeur donc de la Villa Médicis. Il lui révèle ses dons de peintre. Il découvre à Rome la musique italienne du XVIe, en particulier Giovanni da Palestrina. Mais aussi la musique du XIXe, Bellini, Donizetti, Rossini, et même aussi Mozart, Lully et Gluck. Voilà, donc c'est assez varié comme une bonne formation pour un musicien.
Et alors, qui est-ce qu'il a rencontré pour son voyage de retour?
Alors, son voyage de retour, il passe par Vienne et Leipzig, parce qu'il veut rencontrer Mendelssohn, le grand musicien du XIXe siècle, amoureux de Bach, et justement, il lui fait découvrir l'œuvre de Bach, l'œuvre du cantor de Leipzig. À Paris, il est terrassé par des crises de mysticisme au point de vouloir entrer dans les ordres contre le gré de sa famille. Mais cela le pousse à suivre des cours de théologie, à porter la soutane et, avec l'accord du archevêque de Paris, à signer ses lettres, l'abbé Gounod. D'ailleurs, tous ses amis de l'époque musiciens sont très surpris de son comportement. Oui. Un petit peu comme Liszt d'ailleurs, c'est pareil, qui se faisait appeler l'abbé Liszt. À cette période, en 1843, il devient organiste et maître de chapelle des missions étrangères de Paris, plus connu actuellement sous le MEP.
Les MEP, oui, voilà, absolument.
Vous connaissez peut-être certainement.
Bien sûr, on travaille beaucoup avec les MEP.
Très bien, donc c'est une belle maison. Et il fait partie de cet ensemble parce que il est organiste et il est maître de chapelle des missions étrangères de Paris. Au moment de son départ, départ définitif, on comprend de l'importance des missionnaires. Quand ils partaient au XIXe siècle, ils ne revenaient pas. Vous savez, il fallait déjà presque trois ou six mois pour arriver jusqu'à l'autre bout du monde. Donc ils ne revenaient pas. Donc le départ était toujours une cérémonie très impressionnante. Et il y avait toutes les familles qui étaient là, évidemment, les amis, tous les prêtres de la congrégation des missions étrangères. Et puis, Gounod était là, justement, pour saluer ses missionnaires. Et il y a un tableau très intéressant qui se trouve dans la chapelle où on peut voir Gounod en train de saluer les missionnaires. Tableau très intéressant pour situer l'époque. Et malheureusement, en 1848, 5 ans plus tard, il abandonne ses fonctions aux missions étrangères en même temps qu'il renonce à sa vocation sacerdotale. En 1851, il rencontre Pauline Vardot et qui crée son premier opéra, Sacco. Il rêve alors de théâtre. Marié en 1852 avec la fille du pianiste Zimmermann, qui est directeur des écoles communales de Paris et inspecteur des Orphéons. Il crée de nombreux chefs-d'œuvre comme Faust en 1859, Mireille.
C'est ce qui est le plus connu, Faust, peut-être.
Faust, c'est peut-être l'opéra le plus connu, même dans les opéras, disons que c'est le plus connu, indépendamment de celui de Gounod. Mireille, Roméo et Juliette. Après une vie sentimentale un peu turbulente, il part en Londres en 1870 et il compose ses oratorios. On va voir que la vie sentimentale à Londres, tout à l'heure, elle se complique aussi puisqu'il doit revenir brusquement. Il compose ses oratorios, La Rédemption et Morcette Vita, deux très grands chefs-d'œuvre. Il laisse une œuvre abondante à sa mort. Ses funérailles ont lieu à la Madeleine, lui le créateur du style musical français.
Voilà, là vous avez bien résumé la vie de Charles Gounod.
Voilà, un peu synthétique, évidemment.
Oui, en 4 minutes.
Après une vie sentimentale un peu tumultueuse, donc il va à Londres. Et la première de son oratorio, Morcette Vita, fut donnée le 26 août 1885 au Festival de Birmingham. Je t'en parlerai tout à l'heure, mais il n'a même pas assisté à la première, parce qu'il a dû rentrer d'urgence en France. Il avait des problèmes. En fait, il travaille sur cette œuvre monumentale depuis 1867. Ravel voyait en lui le véritable instaurateur de la musique, de la mélodie en France, qu'elle soit pour l'opéra ou l'oratorio. En fait, quand il compose pour l'opéra, il change pas son style de musique, c'est le texte qui change. Ses mélodies sont absolument magnifiques, on va s'en rendre compte avec une qui est très belle tout à l'heure. En 1855, quelques semaines, il compose les 7 paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, dédié à Monseigneur Cibourg, archevêque de Paris. Vous voyez toujours des évêques, il est très, très proche de la hiérarchie. C'est une œuvre d'une grande science harmonique et contrapuntique. Alors je vous propose d'entendre...
Le prologue, peut-être, voilà. Pour commencer.
Grave moderato, fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et vos enfants. Et ils arrivèrent à ce lieu appelé Calvaire, où ils crucifièrent Jésus. C'est l'ensemble vocal de Lausanne, qui est bien connu, sous la direction de son chef, qui prend sa retraite malheureusement en ce moment, assez âgé, Michel Corbouz.
Charles Gounod. Voilà, le grave moderato, donc extrait des sept paroles de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, composé ici par Charles Gounod. Un petit peu plus tard dans sa vie, Jean-François Duchamp, en 1875, Charles Gounod va composer son Requiem.
Son Requiem à la mémoire de son petit-fils Maurice Gounod. Il s'investit totalement dans cette œuvre au langage simple, pour traduire des textes liturgiques dans un langage neuf, donc des textes anciens, puisque très la liturgie catholique,
ah bah oui.
Mais avec une nouvelle écriture, si vous voulez, qui renouvelle un petit peu le style. Ce qui nous bouleverse, c'est l'humilité qu'exprime un homme confronté au sentiment de sa propre finitude. Lorsque son fils meurt en 1889, c'est la révoltante disparition d'un enfant de 5 ans qui est saisi donc de douleur magnifique. Sage qu'est devenu Gounod, disant sa vieillesse, non sans humour. Je pense, je lis, je médite, j'écris. Enfin, je me ramasse de mon vieux devant ma dernière heure. Ce qui vieillit en nous, c'est le logement. Le locataire, lui, ne vieillit pas. Très belle sentence, je trouve. C'est beau, ça. Alors, on va écouter une extrait de cette séquence, la séquence donc du Dies Irae, qui fait partie de l'office des funèbres. Donc, c'est une séquence un peu longue, mais elle est si belle que j'avais un peu de la peine à la couper, quand même. Alors, Dies Irae, tout le monde connaît, jour de colère que ce jour-là, qui réduira en cendres le monde, selon l'oracle de David et de la Sibylle. Quelle terreur quand le juge viendra pour tout examiner avec rigueur, la trompette jetant ses notes stupéfiantes parmi les tombeaux. Ce Dies Irae sera joué quelque temps plus tard devant Mendelssohn, on en a parlé tout à l'heure puisqu'il l'a rencontré à Leipzig, et c'est l'ensemble vocal toujours de Lausanne sous la direction de Michel Corbeau.
Oh!
Voilà le magnifique Dies Irae, extrait du Requiem en ut majeur qui date de 1889, donc de Charles Gounod. On peut saluer ici l'ensemble vocal de Lausanne sous la direction de Michel Corbeau. C'était une magnifique interprétation.
L'échappée belle en musique, Melchior Gormand.
Jusqu'à 15h avec vous, Jean-François Duchamp, nous évoquons Charles Gounod puisqu'il est né le 17 juin 1818, ça fait donc à peu près 200 ans. On va peut-être respirer un petit peu après cette immense Dies Irae qu'on a écouté.
Oui, en écoutant une pièce des plus populaires de Gounod, le célèbre Ave Maria, que tout le monde connaît, qu'on entend souvent pour les mariages, en alternance avec Schubert d'ailleurs. Et c'est une pièce qui a été composée par Gounod sur le prélude en ut majeur du clavier bien tempéré, que tout le monde connaît. C'est une pièce aussi, les pianistes débutants jouent très souvent cette pièce. Et Gounod, qui était très admirateur de Bach, donc par l'intermédiaire de Mendelssohn, va construire sur cette œuvre, rajouter un Ave Maria. Alors il est interprété ici par un des solistes de la maîtrise de la résurrection sous la direction de Francis Bardot.
Écoutons. Le célèbre Ave Maria de Charles Gounod, composé à partir du premier prélude en ut majeur du clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et voilà que nous arrivons, mon cher Jean-François Duchamp, à un autre grand chef-d'œuvre de Gounod.
Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre chez Gounod.
Oui, je dis l'un d'entre eux.
Oui, parce qu'il faut dire qu'il y en a tellement. C'est un de nos grands compositeurs du 19e siècle qui peut faire le pendant face à des Mendelssohn, des gens comme ça en Allemagne. Et c'est Mors et Vita, la mort et la vie. Après avoir composé son oratorio La Rédemption, Gounod entreprend une nouvelle trilogie, Mors et Vita, parce qu'en fait il y a deux noms, mais il y a trois parties. Dédiée au pape Léon XIII, cette œuvre est créée au festival de Birmingham le 26 août 1885 sous la direction de Hans Richter, en l'absence du compositeur. De nombreuses histoires amoureuses, encore, l'ayant obligé à quitter le territoire anglais plus tôt que prévu. Comme il avait eu des problèmes en France, ça se reproduit en Angleterre. Et l'année suivante, l'œuvre sera jouée à Bruxelles et à Paris. Puis le 27 mars 1887, c'est à Lyon qu'elle est donnée.
Où ça ?
Eh ben, alors d'abord, elle est donnée, c'est très curieux parce que c'est le père Tria qui était maître de chapelle à l'époque de la cathédrale de Lyon et il donne cette pièce chez les Lazaristes, dans la salle de fête des Lazaristes.
Les Lazaristes étant un lycée et un collège très connu de Lyon.
Très connu à Lyon, voilà exactement. En fait, ce sont les frères des écoles chrétiennes, pour être précis. Oui. Ils s'appellent Lazaristes, mais c'est les frères des écoles chrétiennes. Et sous l'action donc du père Tria, il donne cette œuvre est donnée et c'est un tellement grand succès, c'est plein que le cardinal Foulon, qui a assisté à la représentation, décide qu'il faut donner un second concert à la primatiale, cette fois, le mardi saint suivant. Exceptionnellement, les entrées furent payantes. Voilà, donc c'est un très émouvant. Et puis, j'ai repris cette œuvre un siècle plus tard, il y a 20 ans, donc à peu près, pour la redonner dans le cadre, non pas de la cathédrale, mais de la basilique de Fourvière, parce que l'acoustique était plus favorable, et avec plusieurs chœurs lyonnais, les chœurs de la cathédrale, évidemment, mais d'autres chœurs, et des musiciens de l'Orchestre National, pour réciter cette première partie, cette grande fresque consacrée à la mort, qui est en sorte un requiem, mors et vita, mors, c'est un requiem, ni plus ni moins.
Alors, beaucoup de souvenirs, j'imagine, pour vous, Jean-François.
Oui, bien sûr, c'était très émouvant, parce que ça me fait rentrer en plein à l'intérieur de cette musique de Gounod, et surtout, vous allez goûter, et vous verrez, il y a des passages absolument magnifiques. Mais Gounod, voilà ce qu'il disait à propos de ce texte de la liturgie, de l'Église et de la Vulgate, comme un théologien, il explique comment la mort précède la vie, parce qu'il a écrit « mors et vita », on pourrait dire « on a la vie, puis on meurt après ». Il explique très bien, il dit « On se demande pourquoi j'ai placé dans le titre la mort avant la vie. C'est que dans l'ordre du temps, la vie précède la mort. Dans l'ordre éternel, c'est la mort qui précède la vie. La mort n'est que la fin de l'existence, c'est-à-dire de ce qui meurt chaque jour. Elle n'est que la fin d'un mourir continuel. Mais elle est comme le premier instant et comme la naissance de ce qui ne meurt plus. » Voilà, d'où le titre « Mors et vita ». Et par son sujet, cet oratorio s'éloigne de l'oratorio dramatique et historique pour atteindre un mysticisme bien plus profond. Une œuvre, un chef-d'œuvre, j'allais dire, tout à fait remarquable. Je vous propose d'en écouter deux passages de la première partie qui se situe elle-même comme une sorte de véritable requiem précédé d'un prologue saisissant dans lequel le chœur à l'unisson crée une réponse apaisante « Je suis la résurrection et la vie ». Et c'est l'ensemble Odéon
Donastiara,
voilà, et l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson.
Écoutons. Nous écoutions donc Jean-François Duchamp, un extrait de Mors Evita de Charles Gounod.
Et oui, plus spécialement cette introduction, ce prologue qui évoque « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, pour bien parler de cette première partie, tout à l'heure je vous parlais d'un triptyque et peut-être les gens se posent des questions. Mors Evita, ça fait deux parties. Il y a une partie intermédiaire qui s'appelle le jugement justement entre la mort et la vie. Voilà.
On a pu entendre l'Orphéon d'Onastiara.
Voilà, c'est un très beau cœur d'Espagne.
Absolument, et l'orchestre du Capitole de Toulouse sous la direction de Michel Plasson.
Exactement.
Et nous continuons à écouter.
Alors, on continue, mais avec un petit retour en arrière, puisqu'on va réécouter l'Ave Maria, mais cette fois dans un autre arrangement que j'ai trouvé très intéressant pour soliste et chœur de Colin Mobby. Colin Mobby, c'est un chef de chœur anglais qui est vivant encore, qui habite à Londres et qui a composé pas mal d'ailleurs de musique. Et là, il a décidé de reprendre l'Ave Maria, mais en rajoutant un chœur. Et c'est le chœur de l'abbaye de Westminster, donc la cathédrale catholique, à pas confondre avec Westminster Abbey, qui est le chœur anglican, pardon. Et là, il est placé sous les leçons de James O'Donnell.
Alors, nous allons peut-être prendre le temps de mettre cette magnifique musique, l'Ave Maria, donc par ce chœur de Westminster. Donc, c'est bien la cathédrale, hein, vous confirmez, voilà, Jean-François Duchamp, sous la direction de James O'Donnell. Et nous allons pouvoir écouter cette musique. Et je vous rappelle que jusqu'à 15h, avec vous, Jean-François Duchamp, nous parlons de Charles Gounod et du 200e anniversaire de sa naissance.
Thank you.
Et bien voilà, une autre version de l'Ave Maria de Charles Gounod. Là aussi, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est tellement beau.
J'ai découvert cet arrangement il n'y a pas très longtemps. Et je trouve qu'il est beau. On n'entend jamais, évidemment. On entend la version traditionnelle pour soliste. Et là, c'est un arrangement pour chœur et ténor solo qui est dû à Colin Moby, grand chef anglais, dont beaucoup de chœurs chantent d'ailleurs son Alléluia dans la liturgie.
Vous restez avec nous sur RCF jusqu'à 15h.
L'échappée belle en musique, Melchior Gormand.
Et c'est en 1878 que Charles Gounod va aussi composer beaucoup pour orgue.
Exactement. En particulier une marche solennelle. Il a écrit pas mal pour orgue, mais marche solennelle, je trouve que c'est intéressant de l'écouter. Voilà. Et c'est Pascal Mélis qui tient l'orgue pour interpréter cette œuvre.
Et c'est Pascal Mélis qui interprétait à l'orgue cette marche solennelle de Charles Gounod, magistrale, majestueuse marche.
Tout à fait, oui. Il a écrit beaucoup pour l'orgue, il a écrit beaucoup pour les messes, il a une, je crois, 16 messes, quelque chose comme ça. Ben, il a écrit 4 requiem, donc oui, c'est quand même énorme. Puis il a écrit des centaines de motets en français et en anglais. Et parmi ces motets, vous ne le savez peut-être pas, Melchior, mais il y en a un qui sait que c'est une marche pontificale, et qu'il a composé en 1969, et qu'il a, qui en 1949, donc il n'y a pas très longtemps, il y a 70 ans presque, a été classé comme la version officielle, l'hymne officiel du Vatican.
Ah oui.
Et comme nous souvent, nous diffusons le Vatican, donc vous pourriez un jour diffuser cette marche solennelle de donc, cet hymne solennel, plutôt, de Gounod.
Il est déjà l'heure de terminer cette émission.
Et oui, hélas, ça passe vite. Ça ne pas du temps.
Mais c'est terrible.
On va revenir un petit peu en arrière pour découvrir un petit morceau en terminant que je voulais garder comme chef-d'œuvre, un extrait, disons, de ce morceau d'Edita que j'aime tant, O Felix Culpa. Ça peut paraître surprenant, une pièce pour soprano dont le texte est un ajout à la séquence empruntée à l'Office de la Semaine Sainte. C'est une magnifique cantilène représentative de l'art mélodique de Gounod. C'est pour ça que j'aimerais qu'on l'entende vraiment avec attention. Et ce texte surprenant, Felix Culpa, ou bienheureuse faute. Comment une faute, elle peut être bienheureuse? Ben si, elle est bienheureuse. Ou bienheureuse faute d'Adam qui nous valut un tel rédempteur, c'est-à-dire le Christ qui est venu libérer l'humanité, évidemment, par sa crucifixion. Alors on va l'entendre par le Capitole de Toulouse et Barbara Hendrix sous la direction de Michel Plasson.
Et voilà, cet air Felix Culpa, composé ici par Charles Gounod, toujours avec cet orchestre du Capitole de Toulouse. Et puis la soprano qu'on a pu entendre, Barbara Hendricks.
Voilà, tout à fait, une belle interprétation et une œuvre magnifique. Vous savez que ce 19e siècle, on dit toujours qu'il est pas très religieux suite à la Révolution française, évidemment.
Mais oui, il y a eu beaucoup d'événements.
Plus religieux quand on voit toute la musique de Gounod, Franck, etc. Et puis en littérature, quand on voit Lamartine avec les harmonies poétiques, religieuse, quand on voit la pièce Le génie du christianisme, vous voyez plein de œuvres qui marquent cette période absolument formidable.
Voilà, Charles Gounod est né le 17 juin 1818 et mort le 18 octobre 1893. Nous lui avons dédié une émission pour le 200e anniversaire de sa naissance.
Je pense qu'on en fera une sur la musique profane, sur l'opéra, parce que ça s'impose. C'est le pendant, puisque dans ces deux domaines, il est formidable.
Merci beaucoup Jean-François Duchamp.
Merci Melchior.
Bonne fin de journée, puis merci également à Pascal Gauthier.